Alors, mes frères, mes sœurs, si je commençais en vous demandant quel est, parmi l'ensemble des éléments de l'Évangile qu'on vient d'entendre, parmi toute la série de recommandations que le Seigneur fait à ses disciples qu'il envoie en mission, quel est l'élément le plus important à retenir là, pour aujourd'hui? Alors, il y en a qui vont faire des considérations extraordinaires là, sur « Ah oui, Jésus a envoyé non seulement les 12, mais aussi 72. » Puis là, il faudrait réfléchir à ça, le 72, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a d'autres qui vont faire des considérations savantes sur deux par deux. Ah oui, il les a pas envoyés seuls, ils ont envoyé deux par deux, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Et puis évidemment, bien, c'est au cœur de cet envoi, là, la proclamation que le règne est proche, de guérir les malades, c'est vraiment des éléments importants. J'aimerais tout de même vous proposer un autre élément que moi je trouve plus important que tout et qui passe souvent inaperçu. Pour moi, la recommandation la plus vitale de l'Évangile, que Jésus fait dans l'Évangile, là, c'est « Là où vous serez, mangez et buvez ce qu'on vous sert. » Mangez ce qu'on vous présente. Là, il y en a qui vont penser que moi, je pense au lunch après la célébration d'aujourd'hui. Les mauvaises langues vont dire que mon Dieu, c'est mon ventre. Pas du tout, et de toute manière, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, donc je suis son disciple. Ça paraît banal, ça paraît sans importance, cette recommandation-là, mais personnellement, j'ai deux raisons de penser que c'est au contraire très important, cet enseignement de Jésus sur le manger et le boire. Premièrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de toutes les recommandations dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est la seule sur laquelle Jésus revient. Il s'y prend deux fois pour dire, là, mangez et buvez ce qu'on vous sert, puis mangez ce qu'on vous présente. Ben, coudonc, ça doit être important. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'après moi, c'est vraiment une recommandation vitale pour la mission, alors que nous sommes, comme Église, à un point tournant, à un carrefour décisif qui implique une véritable conversion missionnaire. Je m'explique. Cette phrase-là, mangez et buvez ce qu'on vous présente, ce qu'on vous sert. On peut comprendre, puis c'est bien là. Contente-toi de ce qu'on va te donner. Comme on dit, vas-y dans l'humilité, là, puis espère pas le caviar, tu sais. Bon. On peut aussi entendre, accepte la générosité des gens, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça non plus, c'est pas banal. Prends pas les gens de haut. Ne prétends pas ne pas avoir besoin de manger ou de boire. Ne te prends pas pour Superman ou Wonder Woman. Ne prétends pas ne pas avoir besoin des autres. J'ai pas une grosse expérience missionnaire, m'est arrivé d'être coopérant en Haïti pendant une petite année comme ça, puis je me souviens quand même de ceci qui m'est arrivé. Je vous le partage. Moi, j'avais 20 ans à l'époque, 21 ans, puis tout fougueux. Je monte avec un religieux mariste, un frère mariste dans les Mornes, puis on entre dans une caille-tôle, une bicoque, là, ça avait presque pas, c'était pas une maison, là, tu sais. Ça tenait à peine debout, là. Sur le feu, il y avait un petit pot qui brûlait là avec quelques petits charbons. Dans le pot, il y avait une petite patate avec des épices. Puis à côté de ce feu-là, il y avait une chaise toute branlante. Puis donc, une vieille famille qui était là, une vieille madame, je me souviens, ça fait quand même 32 ans de ça. Puis là, ben, il fallait que ce soit moi qui s'assoie sur la chaise. Il fallait que ce soit moi qui mange la patate. Et là, je dis au frère, je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure, regarde, crève de faim, eux autres, là, c'est pas moi à manger ça, là. Le frère, il dit, femme, assis-toi, mange. Ne leur fais pas l'insulte de ne pas vouloir de ce qu'ils t'offrent. Peut-être qu'on peut donc comprendre aussi cette recommandation du Seigneur comme accepte la générosité des autres, et puis voilà que l'évangélisation est un lieu de rencontre. Mais je vais plus loin. Pour moi, quand j'entends cette phrase-là, ça me dit ceci. Fais-toi proche des gens en acceptant de manger et de boire ce qu'ils ont l'habitude de manger et de boire eux autres. Ça, c'est un méchant défi parce que j'ai souvent l'occasion de parler à des missionnaires, ici ou ailleurs, puis le deuil premier, là, c'est le deuil de leur nourriture. C'est le deuil de dire, coudonc, où est-ce que je vais trouver le maïs, où est-ce que je vais trouver le manioc, où est-ce que je vais trouver ici, où est-ce que je vais trouver ça. Nous autres, où est-ce qu'on va trouver notre poutine? Bien, si tu vas en Guinée-Bissau, là, pas de poutine à Orlando, là. Non. Puis, je sais pas Orlando, mais à Kashoup, à Montréal, je ne suis pas sûr que tu en as mangé souvent. Hein. C'est le plat, là, j'avoue que j'ai googlé le plat national des Cap-Verdiens, là. Puis, je sais pas, t'en as-tu mangé depuis 14 ans ici, 15 ans? Jamais. Fait que la poutine, oui, mais le cachou pas, non. Ça veut dire ça, mes frères, mes sœurs, ce petit bout de phrase-là qui a l'air de rien du tout. Ça doit vouloir dire que la mission implique un déplacement. Pas seulement, pas toujours géographique, mais toujours un décentrement de soi. Et comme tu le dis, Orlando, ça implique une plongée au cœur du monde, au cœur de Dieu. Tu le dis de ton engagement, ma sœur, de tes vœux perpétuels au sein des fraternités monastiques de Jérusalem. Et c'est bien vrai, frères et sœurs, vous les connaissez, hein, les moines puis les moniales. Ils sont un peu fous. Hein. Et ça prend... C'est inscrit dans leur code génétique aux fraternités de plonger donc au cœur du monde. Il faut être un peu fou pour accepter un défi d'une vie contemplative sur le riz Mont-Royal, avec le bar en face puis les dynamitages à côté. Tout à l'heure, on va demander à Sœur Orlando si elle veut devenir au cœur des villes. Marquez bien les mots ici, là. Au cœur des villes où le Seigneur t'a placé, témoin de l'absolu de Dieu, messagère de sa joie et artisane de sa paix. Au cœur des villes. Ça prend tout un courage pour vivre ce déplacement-là. Mais aujourd'hui, nous avons bien compris que les missionnaires, ce ne sont pas seulement ceux ou celles qui quittent avec courage leur pays d'origine pour aller porter la bonne nouvelle ailleurs. Les missionnaires, ce sont tous les disciples du Christ. Disciples missionnaires qui prennent au sérieux leur baptême et leur confirmation et qui quittent avec courage la nostalgie d'un pays passé pour entrer dans le nouveau monde, le pays nouveau, parfois leur propre pays, leur propre ville, transformée par la modernité, pour se faire proche des mille manières, même par le manger et le boire, peut-être d'abord par le manger et le boire, proche des hommes et des femmes de notre temps, pour mieux accueillir leur joie, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs tristesses, et mieux partager en retour l'évangile de vie et de liberté. Alors, Sœur Orlando, en t'engageant aujourd'hui avec ce que la Providence nous donne comme évangile à méditer, on ne l'a pas choisi ce texte-là, il nous tombe dessus, c'est extraordinaire. Tu nous rappelles notre propre engagement à la mission. Il y a bien une deuxième raison pour trouver importante la recommandation du Seigneur sur le manger et le boire. Parce que voyez-vous, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais on sent chez le Christ l'urgence de la proclamation du règne. Jésus dit aux 72, « Ne saluez personne en chemin. » Et pourtant, une fois arrivé à destination, la première chose à faire, c'est pas tassez-vous là, que je guérisse les malades, c'est pas tassez-vous que je vous parle du règne de Dieu. Ce n'est pas de se lancer dans l'action, mais la première chose en arrivant, c'est bien de souhaiter la paix à la maison, paix intégrale à l'endroit qui nous héberge. Et j'aime à penser, frères et sœurs, en méditant sur ce texte de l'Évangile, que l'ordre dans lequel le Seigneur présente les choses n'est pas anodin. D'abord paix à la maison, ensuite manger et boire. Après seulement, Jésus mentionne « Allez donc guérir et dévoiler le règne. » Et cet ordre-là aussi n'est pas banal. Guérissez et dites que le règne de Dieu s'est approché. Appuyez toujours votre parole sur un geste de délivrance, sur un geste de libération, sur un geste de guérison, sur un geste qui met des hommes et des femmes debout. Proximité, bienveillance, manger, boire, partager la paix, cela est déjà proclamation du règne que nous avons pourtant à nommer avec nos contemporains, nos voisins. Ça veut dire aussi que le règne n'arrive pas quand moi j'arrive en quelque part. Le règne ne commence pas quand moi je guéris ou j'accomplis des miracles. Il est sans doute déjà là, au secret des cœurs, en attente peut-être de surgir, de se manifester. Il est dans le pain partagé, le temps accordé aux relations, à l'amitié. Non, frères et sœurs, le règne n'est pas toujours là où l'on pense. Il n'a pas toujours les contours qu'on espère, il est déjà là et pourtant pas encore. En ce sens, à mon sens, finalement, le plus important indice pour la mission aujourd'hui n'est-il pas dans la parole que Jésus nous dévoile au tout début, quand il dit à ses disciples « La moisson est abondante ». Ce que ça veut dire, ça, c'est pas simplement un constat, c'est une invitation de Jésus. C'est une invitation qui nous lance à changer notre regard. La moisson est abondante. Voyons donc, y avez-vous déjà pensé? Jésus est là, puis regarde, puis dit « La moisson est abondante. » Voyons donc, Jésus. On n'a même pas commencé à semer, puis tu dis que la moisson est là. On n'a même pas commencé à s'activer, puis toi, tu nous dis là, qu'il faudrait moissonner. Comme si Jésus disait « Vous ne l'avez pas, là. Il y a un autre qui vous précède, qui a déjà jeté la semence. » La moisson est abondante. La moisson. Jésus est capable de voir déjà l'invisible. Jésus veut nous communiquer sa propre capacité de voir ce qui est encore caché. C'est un don prophétique, un peu comme Isaïe qui proclame à une nation déboussolée une paix et une consolation encore à venir, mais que lui voit déjà et qui parle, donc il est déjà au présent, même s'il parle d'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur veut communiquer à son Église, aux membres de son corps, cette capacité de voir ce qui n'est pas évident. Et je crois que c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il place au cœur de l'Église la vie consacrée, et en particulier la vie contemplative, pour être témoin de ce qui n'est pas encore pleinement manifesté, pour être signe de ce qui n'est pas encore pleinement manifesté, pour être ferment de ce qui n'est pas encore manifesté. Témoin de l'absolu de Dieu, témoin de l'absolue humilité et de l'absolue charité de Dieu qui veut la paix et la joie pour tous ses enfants. Orlando, je crois que la parole aujourd'hui t'invite à constamment examiner tes priorités. Et elle t'invite à examiner constamment aussi ton regard pour t'assurer que tes priorités correspondent aux priorités du règne et que ton regard correspond au regard du Seigneur sur le monde. En faisant cela avec tes sœurs et tes frères de Jérusalem, bien, ensemble, vous allez aider l'Église entière à fixer son regard vers le but en l'entraînant à la suite du Christ. Alors aujourd'hui, dans notre Église, dans la communauté des fraternités monastiques, il y a la joie, il y a des accents de victoire dans la première lecture, puis dans l'Évangile, le porté sur la hanche, puis let's go, le démon nous obéissait, c'est extraordinaire. Mais n'oublions pas que Jésus marche vers Jérusalem. Il marche vers la croix. La paix que Dieu dirige vers la ville sainte comme un fleuve, nous savons, frères et sœurs, qu'elle va jaillir du côté du Christ-temple endormi sur le bois. Orlando, en route vers Jérusalem avec le Seigneur, méfie-toi des victoires qui ne passent pas par la croix. Fidèle à l'Évangile, ne te réjouis pas tant de tes succès apostoliques, je t'en souhaite,